Le débat d'histoire de ce mois de novembre 2016 a pour thème la découverte de la Chine par les missionnaires et les savants européens au XVIe et XVIIe siècle. Découverte paradoxale, puisqu'il s'agit d'un immense empire connu déjà depuis le XIIIe siècle. Mais à partir de la mi-XVIe siècle, plusieurs raisons rendent désirable et nécessaire une meilleure connaissance de cette terre de l'Orient extrême. Et c'est ce travail de connaissance inséparable, comme nous le verrons, du projet missionnaire qu'Antonella Romano a mis au centre d'un livre publié par Fayard et intitulé « Impressions de Chine, l'Europe et l'englobement du monde, XVIe-XVIIe siècle ». Nous la suivrons dans les trois moments de son analyse. D'abord, elle montre les exigences et les risques d'une évangélisation dont la science est le principal instrument et dont les jésuites sont les acteurs essentiels. Elle mesure aussi les effets en Europe de la collecte et de la publication des savoirs sur la Chine. Et finalement, son livre s'interroge sur l'effacement ou la robustesse des frontières qui unissent ou séparent non seulement les Européens et les Chinois, mais aussi dans l'œuvre scientifique, les catholiques et les réformés. Antonella Romano est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et elle est directrice du Centre d'histoire des sciences, le Centre Alexandre Coiré. Nous mènerons la conversation avec elle en compagnie de Stéphane Van Damme, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Et je le rappelle, Stéphane Van Damme a été le maître d'œuvre du premier volume de l'Histoire des sciences et des savoirs, publié au Seuil, un ouvrage que nous avons présenté dans ces débats d'histoire en janvier dernier. Mais première question, Antonella Romano, comment êtes-vous arrivée en Chine? Qu'est-ce qui a porté pour vous le voyage vers la Chine? Est-ce que c'est, vous y êtes arrivé par les mathématiques, puisque je rappelle que votre premier livre avait pour titre « La contre-réforme mathématique, constitution et diffusion d'une culture mathématique jésuite à la Renaissance, 1540-1640 », c'est un livre publié par l'École française de Rome, ou est-ce que c'est par votre intérêt par les efforts missionnaires, et pas seulement en Chine, puisque vous avez travaillé aussi sur la Nouvelle-Espagne? Ou une autre hypothèse qui m'est venue à l'esprit, votre intérêt pour une question qui serait, elle, non pas géographique ou chronologique, mais finalement une question plus théorique, les rapports entre science et religion. Alors, quel chemin de Chine avez-vous suivi?
Merci pour cette question et pour cette invitation. Il me semble que les trois réponses, au fond, seraient tout à fait pertinentes. Et c'est vraiment à la croisée de ces trois-là que se situe le long cheminement intellectuel qui a conduit à ce livre. Quand j'ai commencé à travailler sur l'enseignement des mathématiques, je ne savais pas que j'arriverais en Chine. Cela va de soi, d'abord pour des raisons d'ordre intellectuel et épistémologique. Les années 90 étaient encore des années très centrées sur l'Europe et sur une histoire des sciences à l'âge moderne centrée sur le monde européen. Il a donc fallu qu'après cette première interrogation sur pourquoi l'émergence des mathématiques comme discipline dominante dans le dispositif d'enseignement européen de la première modernité, il a fallu qu'à partir de là, je m'ouvre à la question du rapport de l'Europe au monde. Et ceci s'est fait en suivant une partie de ces mathématiciens dans l'entreprise missionnaire. Et comme vous le disiez très justement, la question des savoirs missionnaires est lentement devenue, sans doute, la question principale à partir de laquelle j'ai pu continuer à réfléchir sur cette question plus théorique et plus fondamentale, peut-être aussi à laquelle vous faisiez allusion, à savoir les rapports entre science et religion.
C'est un thème d'ailleurs que vous aviez mis comme titre à un colloque de l'École française de Rome qui a été publié en 1999, Science et religion. Et
absolument.
Puis dans une publication en espagnol, le titre est Les jésuites entre culture rhétorique et culture scientifique. C'est ce que nous allons nous allons retrouver. Alors, je crois qu'on peut entrer dans le livre, Stéphane Van Damme, en commençant par ce paradoxe, je disais, découverte de la Chine. J'essayais de faire sentir les guillemets dans l'oralité, puisqu'il s'agit de ça, et en même temps, la Chine n'est pas l'Amérique, la Chine est connue. Alors, pourquoi cette idée de découverte de quelque chose qui est déjà connu ?
Oui, c'est quelque chose de très intéressant, le premier chapitre qui ouvre le livre, qui ouvre l'enquête. C'est une manière aussi de lancer la problématique sur une discussion qu'on pourrait considérer comme réglée d'une certaine manière de cette histoire de la première globalisation, pour emprunter l'expression à Serge Grusinski. Et je trouve que l'invitation, la proposition historiographique que nous fait Antonella, c'est Romano, c'est justement de s'intéresser, de montrer, de mettre en énigme, si j'ose dire, de mettre en question ce retour de la Chine, qui semble effectivement, depuis la fin du Moyen Âge, un espace, sinon bien connu, mais déjà connu. Donc on n'est pas dans une logique du premier contact, si j'ose dire. On n'est pas dans une logique qui fétichiserait à nouveau la rencontre, mais qui essaye d'analyser comment se problématise d'une certaine manière la Chine au milieu du XVIe siècle dans le cadre d'un processus d'évangélisation du monde. C'est une stratégie.
Mais pourtant, vous montrez que c'est peut-être la découverte de cette première rencontre dans le cas de l'Amérique qui a été une des raisons, oui. Une des raisons de cette volonté d'en savoir plus et mieux sur la Chine. Et c'est peut-être là où se trouve la clé de ce mot que vous employez au titre et qui est celui d'englobement. Donc, en effet, finalement, de la découverte de l'Amérique sur la découverte, encore avec plus de guillemets que dans le premier cas, de la Chine.
Oui, tout à fait. Ce qui a été extrêmement intéressant dans mon propre cheminement, d'une certaine manière, ça a été la nécessité un peu d'aller à rebours de l'histoire qui, s'occupant des relations entre l'Europe et la Chine, faisait démarrer tout cela avec les jésuites à partir de la fin du XVIe siècle. Et il m'a été extrêmement utile, sinon nécessaire, de reposer la question de comment est-ce qu'on arrive en Chine, comment est-ce que ces jésuites arrivent en Chine, en essayant de les mettre eux-mêmes au cœur de l'ensemble des dispositifs européens, et du coup, regarder de manière plus attentive le monde ibérique, hein, comme ce monde à partir duquel se déploie la carte du monde. Et d'où l'importance pour moi de la réflexion sur la production cartographique et l'interrogation des processus de savoir qui produisent la connaissance sur les espaces. Or, il me semble que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ce qui a été décisif et principalement porté par l'Espagne et le Portugal en train de se construire comme empire, ça a été la construction de ces routes qui les ont menés les uns vers l'Asie, les autres vers l'Amérique, mais une fois arrivés en Amérique, se retrouver de nouveau face à un espace océanique qu'il fallait lui-même poursuivre, continuer à travailler, à repérer, pour du coup se retrouver face à cette Chine où on arrivait de manière totalement différente qu'on ne l'avait fait dans la période médiévale. Et du coup, se poser la question de cet espace que finalement on ne connaissait pas très bien entre cette Chine où on arrive depuis le Moyen-Âge par les voies terrestres et cette Chine où on arrive à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle par les voies maritimes.
Mais vous montrez que le mot englobement est lié à cette, justement cette idée que cette rencontre se fait dans un processus dans lequel on pense le monde comme, je vous cite, un continuum en forme de globe. Et
absolument.
De là l'intérêt pour, évidemment, les cartes, la cartographie qui donne à voir cette, ou les maps mondes, ou les globes eux-mêmes.
Tout
donc c'est
fait.
Cette idée-là de, que le désenclavement du monde, pour reprendre une expression chère à Pierre Chenu, se traduit par une nouvelle conscience ou représentation du monde.
Oui.
Et dans le livre, évidemment, on suit les jésuites et d'autres. En Chine, et leur rapport avec les empereurs, pour certains d'entre eux. Mais en même temps, le cœur du livre est aussi une réflexion sur ce que la Chine fait à l'Europe.
Oui.
Et vous avez une formule, la Chine est considérée, la Chine tente à l'Europe un miroir d'elle-même. Et c'est cette réflexion qui m'a fait penser évidemment que votre livre pourrait être mis en parallèle avec un livre déjà ancien et un peu oublié, qui était le très beau livre de Jacques Proust, dont le titre était « L'Europe au prisme du Japon » et avec
absolument.
La même stratégie, c'est-à-dire de suivre les Européens dans ce territoire et en même temps de porter l'attention, puisque c'est votre domaine aussi de connaissances et de compétences, sur les effets en retour. Alors, un miroir de quoi ?
Un miroir d'eux-mêmes. Alors, c'est ce qui m'a là aussi énormément frappé à partir de la lecture des premiers récits portugais puis espagnols avant que les jésuites n'en deviennent les spécialistes d'une certaine manière, c'est que les premières impressions de Chine, elles portent sur la découverte d'un monde qui est comparable à celui que l'on connaît. Et dès Gaspar da Cruz, puis ensuite avec les missionnaires espagnols, on est extraordinairement frappé, sinon ébloui, fasciné par l'idée que le monde chinois est un monde extraordinairement sophistiqué, lettré. Et cette idée-là, elle va très vite circuler dans la deuxième moitié du XVIe siècle, y compris dans les textes en français de cette deuxième moitié du XVIe siècle. Je pense à Louis Leroy. Et là-dessus, Etienne avait écrit des pages, lui aussi, tout à fait passionnantes là-dessus.
Et donc, dans les premiers, au début du livre, vous analysez les premiers livres sur la Chine, soit portugais, comme Gaspar da Cruz en 1570, le traité des choses de la Chine, ou un texte qu'on peut en prendre peut-être un extrait de Mendoza en 1585, en espagnol, Histoire des choses les plus notables ou remarquables de la Chine. Et dans ce texte, vous rencontrez la citation suivante, traduite en français. Ils n'ont cependant aucun alphabet de lettres comme nous, mais ils écrivent chaque chose avec une figure qu'on apprend avec le temps et beaucoup de difficultés, chaque parole ayant un caractère particulier. Leur langue s'entend mieux écrite qu'en parlant, comme l'hébreu, les caractères se distinguant par points, qui ne servent pas aussi facilement quand on parle. Ils écrivent différemment de nous et commencent à l'envers, soit de droite à gauche. Ils ont le même style dans leur imprimerie, comme on dira ultérieurement, et comme on peut le voir aujourd'hui à Rome, à la Bibliothèque Vaticane, et dans celle de Sa Majesté le roi Philippe, que le roi Philippe a fait dans le monastère de Saint-Laurent. Donc c'est un texte qui a été publié en 1585.
Oui.
On voit bien la tension entre... Il y a une différence, évidemment. L'écriture n'est pas alphabétique, et une communauté, ils connaissent aussi l'imprimerie. Et c'est un peu le modèle qui sert
à
pratiquement
fait.
Toutes les descriptions.
Tout à fait, tout à fait. Cette idée que on est en train de croiser un monde lettré qui est dont la qualité du rapport à la culture lettrée est absolument comparable à ce que l'on a dans cette Europe de la seconde moitié du XVIe siècle, où l'imprimerie est en train de devenir le nouvel instrument de la modernité européenne. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait frappant et qui, à mon sens, l'est d'autant plus que la rencontre s'effectue au moment même où l'imprimerie est ce nouvel instrument pour l'Europe.
Et du coup, car on voit là, d'ailleurs on pourrait suivre dans ce livre et ailleurs la référence à la Bibliothèque Vaticane,
tout
puisque ces livres chinois qui étaient arrivés là, qui en 1581 voient Montaigne, et puis ils réapparaissent, cette citation est tout à fait fréquente. Mais aussi, Stéphane Romain, pour cette idée de la Chine qui est comparable, même s'il est... Il y a des différences morphologiques, il y a des parentés culturelles. Cette idée-là, elle s'applique aussi sur le mode du gouvernement et sur la représentation qu'on se fait des lois, de la raison, pratiquement déjà une représentation qui anticiperait sur le grand modèle chinois du XVIIIe siècle.
Oui, tout à fait. C'est vrai que Antonella Romano utilise l'expression de la Chine est un laboratoire. Et c'est au moment où, en Europe, les grandes questions de philosophie politique sont débattues dans les contextes de guerre de religion, de tensions entre monde de la catholicité et monde protestant, que le miroir chinois permet aussi disons de manière plus pacifique, d'une certaine manière, de projeter ces réflexions sur le bon gouvernement, le rapport entre la classe lettrée, évidemment, les jésuites et les ordres religieux enseignants ont à cœur de défendre cette vision de l'apostolat, un apostolat plus intellectuel aussi. Et c'est vraiment intéressant de voir ce que permet la Chine. C'est qu'elle autorise d'une certaine manière par rapport aux Amériques, où effectivement les questions, et c'est très bien montré dans le livre, les questions portent plutôt sur le statut sauvage, barbare des populations rencontrées.
Mais en même temps, on a l'impression que des raisons contradictoires peuvent porter la même idée, c'est-à-dire qu'il y a une attente ou une promesse d'évangélisation. Dans le cas qu'évoque Stéphane Van Damme, c'est le naturel bon des peuples d'Amérique et qui sont, comme on le voit chez Las Casas, en attente de cette évangélisation qui est trahie par les cruautés et tyrannies des conquistadores. Dans ce cas, en Chine, c'est à la fois la similitude pour la culture lettrée et pour une organisation politique, mais s'il y a promesse ou attente de conversion, c'est parce que l'on désigne la Chine comme un pays peu croyant.
Tout à fait. Tout à fait. L'un des grands éléments de l'attraction aussi pour cette Chine, à partir du moment où on arrive à s'y installer tant soit peu, est exactement celui-là, l'idée que un tel degré de sophistication dans le gouvernement des hommes, et ici il faudrait aussi sans doute développer plus que je ne l'ai fait tout ce que la dimension urbaine de cette civilisation entre guillemets là encore représente pour ces Européens qui eux-mêmes arrivent de monde urbanisé, donc tout ce que ce monde là est au fond disponible pour recevoir la parole de Dieu. Tout y est. On a de la raison, on a de la culture, on a du gouvernement et une disponibilité par rapport à une idée tout à fait abstraite que représente aussi la divinité telle que les catholiques, mais aussi sans doute la chrétienté plus généralement, la pense dans son rapport à Dieu. Et du coup, l'idée que ce territoire, plus on en découvre l'immensité, plus on en découvre la potentialité comme terre d'évangélisation, devient évidemment motrice dans les mécanismes mêmes de la découverte.
Et du coup, c'est cela qui définit la spécificité de cet effort de conversion du parc, comme on l'a rappelé, une conversion qui peut utiliser le savoir parce qu'il y a un savoir ou des institutions de savoir ou des instruments de savoir qui sont déjà là, grande différence évidemment avec les peuples sans écriture, et de l'autre côté, ou sans culture lettrée, du moins dans les yeux des Européens.
Absolument.
Et il y a de l'autre côté une conversion par le haut. Dans un autre texte que vous citez, il y a, non plus celui de Mendoza, mais celui de Valignano, qui est d'ailleurs un personnage commun au livre de Jacques Proust et au vôtre, puisque c'était le visiteur des jésuites pour le Japon, et du coup, il écrit aussi sur la Chine, et il écrit ce livre Histoire des principes et des progrès, ou des commencements et des progrès de la compagnie des jésuites dans les Indes orientales. C'est un texte manuscrit, mais qui a circulé, et il a cette observation: si on pouvait servir notre Seigneur en ouvrant la porte de ce peuple à l'Évangile, on pourrait fructifier beaucoup plus avec eux qu'avec toutes les autres nations d'Orient. De sorte que si notre loi pouvait plaire au roi et à son conseil, tous les Chinois la prendraient sans douter et sans répliquer à cause du grand respect et de l'obéissance qu'ils ont pour lui. Donc finalement, le despotisme oriental ou la vision de l'empereur tout-puissant est la clé de cette l'originalité de cette conversion.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, je vous remercie d'avoir rappelé non seulement Jacques Proust, mais aussi le Japon, parce que une des choses qui m'ont beaucoup intéressée aussi dans mon propre itinéraire, ça a été celle de la nécessité de ne pas isoler l'arrivée en Chine et l'arrivée du topos de la Chine comme lieu de la focalisation de ces espoirs de l'évangélisation, précisément parce que les hommes avec lesquels nous travaillons pour cette époque-là et sur ce sujet-là, ce sont aussi des hommes qui circulent entre les différents espaces de l'Asie. Et donc, le Japon devient ce à partir de quoi aussi on peut réfléchir sur ce que la Chine offre, que le Japon n'offre pas. Et de ce point de vue-là, la construction politique de la Chine est très différente de celle du Japon, comme on le sait très bien.
Oui, ce qui m'a frappé, c'est dans ce processus de dilatation de l'espace de la catholicité, il y a effectivement une hésitation entre la Chine et le Japon. Il y a une discussion, en fait, très pragmatique aussi dans ces ordres religieux. Et c'est vraiment très, très intéressant, c'est de suivre comment, dans ce travail de justification, à un certain moment, la Chine passe devant, d'une certaine manière, le Japon. Et c'est vraiment très intéressant aussi comment cette discussion se traduit aussi dans les savoirs de l'espace. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que ces territoires lointains? Il faut les mettre sur la carte comme bordure du monde, comme extrémité ou comme centre. On voit progressivement comment, évidemment, dans les yeux des Chinois, le centre de, ils sont le centre de gravité du monde. Il y a une négociation, il y a une discussion très intéressante, parce que tout au long du livre, effectivement, on suit ces savoirs de l'espace. Cette inscription spatiale à travers la carte, l'atlas, et y compris l'astronomie, puisque c'est aussi un rapport du ciel et de la terre.
C'est ce qui fait la tension du livre, dans un sens, parce que la catholicité, c'est comme les Lumières, c'est-à-dire que c'est universel, mais c'est un universel qui est un processus, et non pas... Il peut être un donné théologique, mais il n'est pas une réalité historique. D'accord. Et le processus consiste à rendre le plus adéquat possible les réalités historiques du catholique, de l'universel, avec cette définition première. Mais la citation de Valignano disait « en ouvrant la porte », et cette porte, elle ne s'ouvre pas si facilement.
Non.
Et donc, une autre histoire que compte le livre, c'est évidemment les fermetures à différents moments de cette porte et des persécutions contre les missionnaires qui sont en Chine. Et c'est en même temps les efforts que les missionnaires doivent faire ou les stratégies qu'ils doivent suivre pour pouvoir ouvrir cette porte. Et c'est pourquoi vous avez consacré un chapitre attendu, mais nécessaire, à Matteo Ricci, qui est le premier jésuite, si je me souviens bien, avec Ruggieri à entrer en Chine, et qui va finalement définir des instruments de la conversion par le savoir, son savoir et le savoir qu'il projette, qui vont rester comme une constante pour oui. tous les efforts missionnaires. Alors pourquoi cet intérêt classique, mais absolument nécessaire pour que Matteo Ricci, qui, on le rappelle, entre en Chine à la fin du XVIe siècle, arrive au palais impérial en 1601 et va y rester jusqu'à sa mort en 1610.
Oui, un chapitre sur Ricci, c'est toujours très risqué, comme vous pouvez l'imaginer, étant donné le caractère massif des travaux qui lui ont été consacrés et qui continuent à lui être consacrés. Et ceci témoigne évidemment de l'extraordinaire richesse du legs intellectuel de Ricci. En même temps, ce chapitre ne vise pas à être exhaustif. Sur Ricci, du reste, ça n'est pas du tout l'objectif du livre, en général, d'être exhaustif sur les questions. Mais ce qui m'intéressait, c'était précisément d'arriver à le saisir par contraste avec les acteurs qui, dans le même moment, tentent eux-mêmes de s'arrimer, finalement, sur le continent chinois. Et il me semble que plusieurs choses ont été décisives. En partie du fait de l'intelligence que Valignano avait de la situation, puisque c'est tout de même Valignano qui met le premier l'accent sur la question des langues, de l'apprentissage de ces langues.
Jusqu'alors, c'était par des interprètes.
Voilà.
Des truchements, voilà. Disait Montaigne.
Tout à fait. Ces fameux truchements qui posent un problème. Alors, on le sait bien, dans toute histoire de contact, le truchement est par définition devenu même historiographiquement le grand acteur. Maintenant, le fait de considérer l'investissement dans l'apprentissage de la langue écrite, parce que pour l'oral, les choses se posent dans des termes différents, est ce qui a permis de pouvoir entrer en contact plus direct avec les élites lettrées. Et à partir de ce moment-là, de mieux pouvoir entendre ce que ces élites lettrées pouvaient elles-mêmes attendre. Et ça, c'est évidemment ce que Ricci a vécu et expérimenté et transmis. D'où un travail tout à fait important sur la cartographie. Et si Matteo Ricci se met à faire des cartes, c'est d'abord en réponse à une demande qui lui est faite par les représentants des élites locales au fur et à mesure qu'il suit cette longue route qui le mène jusqu'à la cité interdite. Et ça n'est pas par hasard s'il met 20 ans à poursuivre cette quête de l'arrivée à Beijing. Donc la cartographie qui va devenir le premier langage de communication entre ces Européens qui eux-mêmes arrivent en Chine au moment où la cartographie européenne est en train de vivre ces transformations les plus massives, à travers en particulier ce sens du globe qui est acquis, si on pense à Ortelius par exemple et à son entreprise cartographique tout à fait remarquable. Voilà. Donc l'investissement dans la langue qui permet de faire des cartes, qui permet de faire des instruments d'observation astronomique, et qui va aussi permettre de comprendre la nécessité du lien privilégié avec les élites, avec les problèmes que cela risque aussi de poser. Mais c'est cette stratégie-là qui est une stratégie gagnante. Et ça, on peut le voir d'autant mieux si l'on compare avec les autres missionnaires.
On voit la difficulté de cet apprentissage, puisque... Alors, une question, comment est connue en Occident ce travail, cette présence de Ricci, par des lettres qu'il envoie et qui sont imprimées?
Tout à fait. Alors.
Mais il y a d'autre part d'autres documents, mais sont-ils connus, puisqu'il y a un journal ou un journal de voyage. Alors, quel est le sort de ces... Vous mentionnez qu'il y a des éditions modernes, récentes, mais qu'est-ce qui était au XVIe siècle et au début du XVIIe connu de Ricci et comment ?
Alors, ce qui est connu de Ricci, et là aussi, hein, c'est un élément extrêmement important de la contextualisation de la présence, enfin de la montée en visibilité de la Chine dans l'espace européen par l'imprimé. Hein. Je crois que ça, c'est un élément tout à fait important. Donc, les lettres des jésuites des missions, elles commencent à être mises en circulation par les jésuites en Europe dès les années 1570. Et dans ce travail de mise en circulation de lettres qui, au départ, ne sont pas du tout destinées à une circulation extérieure, mais qui servent au gouvernement de la compagnie, on trouve des rapports sur la Chine, etc. La correspondance de Matteo Ricci est une correspondance qui reste principalement, je dirais, au sein des réseaux internes de la compagnie, et il faudra attendre le XXe siècle pour qu'on ait une édition moderne de l'ensemble de ces lettres. Et du coup, évidemment, un massif.
Mais dans la première phase, elles sont imprimées ou elles ne circulent que de manière manuscrite ?
Elles ne circulent que de manière manuscrite. Les informations sur la Chine, elles apparaissent à travers les lettres annuelles, dont parfois il est lui-même l'auteur. Voilà. Après quoi, le grand texte que Ricci écrit tout au long de sa vie, c'est Nicolas Trigault qui l'amène en Europe. Et c'est ce texte qui est au cœur du premier grand livre que la compagnie publie donc en 1615 à Augsbourg. Il faudra qu'on attende le XXe siècle pour que le texte original de Ricci soit mis à la disposition du public savant et pour qu'on puisse, à partir de ce moment-là, mesurer les écarts entre le travail éditorial qui est fait autour de Trigault en 1615 et ce que Ricci lui-même avait tout au long de cette longue expérience rédigée, notée, annotée.
Je crois que ces précisions, qui peuvent paraître très techniques, sont absolument essentielles pour éviter de projeter sur les connaissances et les savoirs à différents moments du XVIe ou du XVIIe siècle, celles que aujourd'hui, lorsque les corpus sont rassemblés, leur donnent une forme de contemporanéité et sont ainsi disponibles. Et il y a là un travail absolument fondamental. Mais Stéphane Vandenberg, on a l'impression que la cartographie inspire beaucoup Antonella Romano parce qu'elle a des formules très nombreuses. La une qui est la carte précède l'évangile. Une autre qui est cette formule des cartes de crédit, parce que les cartes donnent du crédit. Alors, pourquoi cette centralité de la cartographie ? On a vu l'apprentissage linguistique nécessaire, bien entendu cette question de l'astronomie sur laquelle on va revenir, mais les cartes, au long du périple de Ricci, il produit à chaque étape une série de cartes. Pourquoi est si important cette cartographie ?
Oui, c'est un des éléments, je dirais, très neuf, très novateur dans l'ouvrage. C'est une certaine manière de proposer une recontextualisation de la configuration des sciences, des savoirs utilisés par ces missionnaires. On avait l'habitude, évidemment, de parler de l'astronomie, des mathématiques, un peu d'histoire naturelle, mais effectivement, elle remet au centre, Antonella Romano, au centre de l'enquête, ces savoirs de l'espace, en montrant leur dimension, on va dire presque pragmatique, c'est à lier à un usage diplomatique. Un usage diplomatique au sens large, hein, évidemment, c'est-à-dire qui permet la rencontre, la discussion, au-delà de la langue. On a vu que la question de la langue est un problème au sein de la compagnie. Et ce n'est pas du tout un problème d'y être tranché. Et ça, je trouve que ce chapitre est particulièrement réussi parce qu'il met bien en évidence justement le fait même que la Chine n'est pas une évidence au sein de la compagnie de Jésus. Beaucoup de choses résistent, et parmi les choses qui résistent, on a la question de la formation linguistique des missionnaires. On pourrait croire aujourd'hui, effectivement, que c'est une question évidente. Non, pas du tout. Apprendre le langage à des autres, apprendre le chinois, pour beaucoup de supérieurs de la compagnie, est une perte de temps. Le langage est trop complexe. Passer par la carte, passer par les savoirs de l'espace, c'est, si j'ose dire, comme pour l'astronomie, comme pour les mathématiques, c'est passer par un autre langage. Enfin, c'est en tout cas mon interprétation, je dirais que... Mais ces savoirs apparaissent comme des savoirs de l'action missionnaire. Et c'est ça qui me frappe, c'est là où, effectivement, l'opération de recontextualisation de Matteo Ricci est vraiment heuristique, parce que finalement, ces mathématiques, cette cartographie... elle n'est pas neutre, en fait. Elle est vraiment mise au service d'une stratégie de conversion, d'une stratégie de rencontre, de mise au contact, de pénétration des ordres religieux en Chine. Et ça, c'est quand même un point à souligner, c'est-à-dire cette dimension, cette proximité à l'action qui fait que de temps en temps, ils sont utiles, à d'autres moments, ils sont moins utiles, plus périphériques, etc. Donc cette relation, la diplomatie, on pourrait presque dire une diplomatie scientifique, qui va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Dans les dernières grandes ambassades, par exemple les Britanniques, vont encore venir accompagner d'instruments, instruments de mesure, instruments mathématiques, instruments...
On peut mentionner d'ailleurs à ce sujet les présents qu'apporte Ricci lorsqu'il rencontre l'empereur entre les 25 et 27 janvier 1601. Maître Ricci entra dans la capitale avec 8 autres personnes. Il offrit les saintes images du Seigneur du Ciel et de la Sainte Mère, des livres classiques de la religion du Seigneur du Ciel, 2 horloges à sonnerie automatique, une petite et une grande, un clavecin, une map monde et d'autres dons encore. C'est un texte de qui, cela ? C'est le texte de la vie,
oui.
De la vie écrite par un Chinois de Matteo Ricci.
Par l'un de ses successeurs, donc jésuite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce texte est écrit en chinois.
Voilà, c'est pour ça, le Seigneur du Ciel.
Pour un public chinois. Et ça aussi, c'est tout à fait intéressant. Et, alors, parce que ça nous permet... Moi, j'ai beaucoup aimé ce texte qu'on cite très peu. Mais il est tout à fait symptomatique qu'il y ait une biographie de Ricci écrite en mandarin pour les lettrés chinois.
Et par un jésuite.
Par un jésuite, bien sûr, tout à fait fondamental. Et du reste, ce texte lui-même est tout à fait intéressant parce qu'il est accompagné d'un paratexte dans lequel un certain nombre de lettrés chinois eux-mêmes rédigent des commentaires sur Ricci. Et en même temps, c'est un des rares textes qui nous permettent de voir de quelle manière les missionnaires eux-mêmes essaient de construire l'image de Ricci, non pas pour l'Europe, mais pour la Chine. Et les décalages intéressants entre cette image de plus en plus, on va dire, iconique de Matteo Ricci qui va continuer à circuler jusqu'à nos jours, du reste, et encore une fois, de manière parfaitement compréhensible, étant donné l'importance de son travail. Mais voilà, la possibilité de comparer comment circule une image en Europe et comment elle devient véritablement un mythe fondateur, et ce qu'on peut faire dans l'espace chinois, ça permet aussi de prendre la mesure des deux mesures, justement, dans lesquelles on est. C'est un tout petit texte, ce texte qui est consacré à cette biographie.
Mais c'est là où s'introduit la difficulté, parce que ce projet que nous décrivons ici d'une manière tout à fait positive et lisse, va rencontrer une difficulté. On peut la sentir à la fois avec cette expression pour traduire Dieu de Seigneur du Ciel, puisque l'empereur est fils du ciel, et donc du coup, les travaux astronomiques et mathématiques que les jésuites vont développer, puisque leur présence dans cette stratégie de conversion par la science est une présence scientifique. Ils participent du tribunal des mathématiques, qui était un bureau impérial chargé à la fois de la réforme du calendrier et de la découverte astronomique, mais avec une forte dimension de relation entre les mouvements des astres et les mouvements des peuples ou des puissances, va faire que à la fois de l'intérieur, peut-être même de la compagnie, certaines incertitudes vont s'installer et que de l'extérieur, des critiques très fortes vont être portées contre ce danger de dériver de l'astronomie naturelle, l'observation des mouvements des astres, à ce qui était condamné comme astronomie judiciaire, c'est-à-dire en déduire les événements humains, doublé du fait que désignation de Dieu avec le lexique qui permettait de parler de l'empereur, peut-être là aussi un deuxième élément. Alors c'est un autre contexte que vous analysez, le moment où, peut-être après cet enthousiasme premier, se fissure dans la compagnie la certitude, et vous dites quelque part qu'il devient peut-être plus problématique, la conversation de savoir ne s'accorde pas aisément avec la conversion tout court, et d'autre part des critiques venues de l'extérieur. Alors c'est ce moment-là qui vous mène jusqu'aux querelles des rites du XVIIe siècle, puisque s'ajoute à cela l'idée que les jésuites acceptant des rites chinois, considérés par eux comme civils, ne le seront pas par d'autres, et donc deviendront un autre élément du plaidoyer contre eux. Alors et c'était d'ailleurs un des premiers essais que vous aviez écrit sur ces querelles autour de la mathématique, de l'astronomie et des rites. Est-ce que les jésuites, finalement, surmontent ce doute interne et ces critiques externes ?
Alors, j'aurais tendance à répondre que non, même si un gros effort a été fait d'un point de vue historiographique pour maintenir cette histoire comme une histoire lisse, comme vous le disiez. Et il me semble qu'il faut peut-être ici distinguer plusieurs éléments qui sont importants. Il y a premièrement un élément de conjoncture, cet élément de conjoncture qui est le suivant. Lorsque les jésuites arrivent en Chine, les questions du calendrier chinois sont au cœur de l'actualité en Chine. Ça, c'est un premier point. Les jésuites n'y étaient pour rien, les Européens n'y étaient pour rien. Mais il y a un effet comme ça tout à fait intéressant, mais qui serait impropre de considérer comme équivalent, hein, de réflexion sur le calendrier chinois au moment même où, du reste, en Europe, s'engage la réforme du calendrier julien. Et où, du coup, les jésuites, ayant été présents dans la réforme du calendrier julien, ont eux-mêmes un arsenal théorique, en particulier, qui est mobilisable, sous certaines conditions, dans un autre contexte.
Voilà. Rappelons d'un mot que la réforme du calendrier julien a été la volonté d'ajuster ce que l'on pensait être les mouvements des astres avec le calendrier, qui a entraîné la suppression de 10 jours dans l'année 1586.
C'est cela.
Et qui donc a fait que le calendrier grégorien, accepté par toute la chrétienté, sauf que l'Angleterre, est devenu le calendrier universel. Donc, deux expériences de réforme du calendrier.
Voilà, tout à fait. Et si on pense que Grégoire XIII, qui est à l'origine de cette réforme du calendrier, est aussi le principal soutien de l'entreprise missionnaire, évidemment. Voilà. Mais il y a un effet, là, de conjoncture. Voilà. Le deuxième point, c'est que les jésuites vont donc être considérés comme une ressource possible dans un dispositif savant chinois très complexe pour pouvoir participer à l'amélioration de l'observation du ciel. J'insiste sur le caractère complexe de ce monde chinois parce que il y a des astronomes dits arabes au sein des institutions en charge du calendrier. Donc l'idée qu'on fasse appel à des savoirs étrangers à la Chine, étranger entre guillemets, au cœur des savoirs chinois, n'est pas un problème pour les Chinois. Ça, c'est tout à fait important. Et jusque dans les années 1640, la contribution des missionnaires jésuites à l'observation du ciel se fera dans un cadre qui n'est pas institutionnalisé du point de vue chinois. Ce qui change le rapport des jésuites à l'astronomie chinoise du point de vue des Européens, et c'est pour ça qu'on doit toujours être dans cette triangulation, c'est lorsque, de manière officielle, l'un d'entre eux, un jésuite, Adam Charles von Bell, d'origine donc allemande, va être invité à entrer au tribunal des mathématiques, à en prendre la présidence, et donc par là même à entrer dans le système politique de l'Empire. À un moment où, pour compliquer les choses, mais ça n'a jamais intéressé l'historiographie européenne, alors qu'il me semble que ça peut être un élément de réflexion pour nous tout à fait intéressant, et cette proposition qui est faite à Adam Schall, et quand je dis proposition, il faut aussi rapporter les choses à ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Il ne s'agit pas de réfléchir et de dire oui, peut-être, je ne sais pas. Le rapport de force est ce qu'il est. Et cette proposition, elle émane de la nouvelle dynastie qui est en train de s'installer en Chine et qui met fin à la dynastie des Ming.
Donc on est au milieu du XVIIe siècle.
On est au milieu du XVIIe siècle.
1744, voilà. Après la prise de Beijing, ou Pékin, comme on disait dans
comme
le temps.
Comme on disait dans le temps.
Par les Qing au dépens des Ming.
Voilà.
Et c'est ce moment-là de l'entrée de Charles dans le tribunal des mathématiques.
Voilà. Et donc, évidemment, la question devient doublement compliquée. Puisqu'elle, et c'est peut-être cette double complication sur laquelle j'essaie de réfléchir aussi dans ce livre. Doublement compliqué, pourquoi ? Parce qu'il s'agit de se poser la question de savoir s'il faut suivre cette nouvelle dynastie, mais en cours d'installation. Et évidemment, rétrospectivement, il est facile de dire que la dynastie des Qing a été gagnante. En 1644, certes, la prise de Beijing a été un élément considérable, mais le territoire chinois, justement, dont, et là, on retourne sur la cartographie, dont on comprend l'importance, la massivité, les mesures, etc., est loin d'avoir été totalement conquis, premièrement. Donc, il y a une première indécision. Voilà. Et la deuxième indécision, c'est comment est-ce que l'entrée dans le système mandarinal chinois va être utilisée, d'abord compris, puis utilisée par les jésuites eux-mêmes, voire les catholiques qui ne sont pas nécessairement favorables aux techniques d'évangélisation telles que les jésuites les ont développées.
Mais là, vous évoquez le fait que, à partir aussi des années 1630, des missionnaires dominicains ou franciscains sont envoyés en Chine, deviennent des concurrents et des critiques des jésuites, puisque ce sont eux qui développent ces arguments sur les risques du glissement vers l'astronomie judiciaire, vers l'acceptation de rites qui sont en fait religieux et pas civils. Mais Stéphane Vardat, puisque le temps passe, nous aimerions rester plus longtemps en Chine. Un thème du livre croise directement vos propres recherches, travaux et publications. C'est cette question de la réflexion sur comment les savoirs sur la Chine bousculent des frontières et créent des communautés de savoirs. Là, nous nous sommes intéressés, il le faut, à l'entreprise jésuite, conversion, science, ses difficultés, ses réussites, ses critiques. Mais il y a une dimension qui va, sans nous éloigner des jésuites, qui donne une géographie plus vaste, et qui est la dimension de comment se constitue, se publie et circule ces savoirs. Et là, on voit que l'on ne peut pas rester ni dans le monde de la compagnie, ni même seulement dans le monde catholique. Et l'effet sur l'Europe est un des premiers effets est justement de bousculer ces frontières entre confessions ou entre disciplines instituées.
Oui, l'un des enjeux de cette querelle des rites, elle a un volet intellectuel, puisqu'elle est pas simplement théologique, je veux dire. C'est aussi de poser la question des statuts épistémologiques de ces savoirs. Alors, ils avaient l'air évidents, évidemment, pour vue d'Europe. Arrivés en Chine, ils sont l'objet de négociations, de redéfinitions, de questionnements par les acteurs eux-mêmes. Et c'est là où, d'une certaine manière, historiographiquement, on fait un grand bond en avant avec Antonella Romano, puisqu'on passe, d'une certaine manière, d'une question purement historiographique, comment faire l'histoire de ces sciences, à une question qui vise, d'une certaine manière, à internaliser l'interrogation, à retrouver chez les acteurs eux-mêmes la manière dont ils négocient ces frontières épistémologiques ou même pratiques entre les différents savoirs utilisés. Et là, c'est vrai que le statut des mathématiques, le statut de l'astronomie doit être interrogé dans la dynamique même de la rencontre et dans la dynamique même de la contextualisation que propose Antonella Romano. Les sciences du ciel, effectivement, c'est pas exactement l'astronomie. C'est pas exactement l'astrologie. C'est une configuration complexe. Et c'est là que les choses, évidemment, se compliquent pour l'historien des sciences, qui est habitué à des catégorisations un peu, disons, figées. Elle nous propose de mettre sur la table ces questions de redéfinition en partant, j'ai envie de dire, d'objets frontières entre l'Europe et la Chine. D'une certaine manière, ces objets sont des objets qui sont constitués par les acteurs de ces deux mondes pour essayer de s'entendre, pour essayer aussi de penser ensemble un certain nombre de questions. Alors, dans ce cadre-là, la chronologie, certains éléments d'histoire naturelle, les savoirs antiquaires aussi, la curiosité, hein, le grand thème de la curiosité, les Chinois sont-ils curieux ? Toutes ces questions-là qui, peut-être, avaient un peu disparu de l'agenda de l'histoire des sciences classiques sur la Chine, font retour, grâce au livre d'Antonella Romano, parce qu'elles font retour dans les sources.
Et d'ailleurs, de ce point de vue, elles sont incarnées dans un des personnages dont vous suivez les différentes publications, qui est Martino Martini. On est basculé depuis du côté, avec le tribunal des mathématiques, Charles, et maintenant Martini, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, période Qing pour les Chinois. Et ce Martino Martini est à la fois l'auteur d'un nouvel atlas chinois, Amsterdam, 1655, chez Blaeu, le grand éditeur d'Atlas, et en 1658, des histoires chinoises, Sinike Historie. Donc on voit bien une illustration de ce que vient de dire Stéphane Van Damme. Il est à la fois historiographe, s'intéresse aux chronologies, et c'est lui qui peut comparer avec prudence, mais on peut peut-être lire là une remise en question des pure et seule chronologie biblique, et qui est en même temps l'auteur de cet atlas. Alors, il illustre à la fois dans ses déclarations qui accompagnent l'atlas, cette idée du basculement ou d'une transformation épistémologique qu'évoquait Stéphane Van Damme, puisqu'il affirme le primat de l'observation qu'il a faite lui-même, des mesures qu'il a prises lui-même, qui rompait avec un autre modèle de construction des connaissances. Et d'autre part, vous montrez que c'est un des cas dans lesquels des collaborations volontaires, involontaires, entre catholiques comme lui et protestants comme les Blaeux pouvaient exister. Donc c'est un personnage assez fondamental dans toute la deuxième partie de votre livre, Martino Martini.
Oui, tout à fait. C'est un de ces personnages qui font qu'on a envie de faire de l'histoire des sciences comme on en fait aujourd'hui, précisément parce qu'il vous oblige à systématiquement mettre de côté toutes les grilles d'analyse à partir desquelles vous pourriez vouloir les aborder. Voilà, Martino Martini arrive en Chine en pleine révolution, aussi entre guillemets, c'est-à-dire au moment où les Tartares sont en train de prendre le pouvoir et de définitivement écraser les Ming. Très vite, il va être renvoyé en Europe pour aller défendre auprès de Rome et des institutions romaines. Quand je dis Rome, c'est le pontificat romain et ses institutions, les stratégies d'évangélisation de la Compagnie de Jésus contre des autres ordres qui y trouvent à redire. Et dans ce long voyage qui le mène de l'Europe à la Chine, puis de la Chine à l'Europe, puis de nouveau encore de l'Europe à la Chine, il va laisser un monument tout à fait considérable que sont d'une part ces nouvelles cartes de la Chine. Alors quand je dis nouvelles cartes, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la version la plus informée des connaissances que l'on a en tant qu'Européen sur les territoires chinois. Et donc l'Atlas de Chine, ce sont les cartes des différentes provinces qu'il aura compilées à travers, nous dit-il, ses observations et en comparant aussi les cartes chinoises qu'il a pu avoir à sa disposition. Du reste, il ramènera une série de matériaux chinois avec lui. Bon, premier élément de cette œuvre de Martino Martini. Le deuxième élément, c'est son travail de réflexion sur la chronologie chinoise et là encore, sur la double base de la possibilité qu'il a eue de consulter les chroniques chinoises sur la base de sa connaissance de la langue écrite et sa propre formation de théologien et de savant européen. Et puis le troisième élément, celui qui l'a rendu immédiatement célèbre, je dirais, c'est lui qui ramène l'information la plus fraîche sur ce qui est en train de se passer en Chine. Dans les années 1650, rapporté à ce que sont les logiques de la communication, de la circulation de l'information, ce petit texte qu'il écrira très vite en arrivant en Europe pour rendre compte à un public, à de nombreux publics, et ça aussi c'est un élément tout à fait intéressant de ce qui se passe en Chine, hein, fait que on a là un personnage du milieu des années 1650 qui est à la fois en mesure de très vite répondre à des demandes de type politique, diplomatique, sur ce que se passe-t-il donc là-bas et comment ce qui se passe là-bas peut redéployer le jeu des relations entre les différentes puissances européennes et la Chine, première question. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que ce là-bas, de manière précise? Et encore une fois, le travail cartographique, comme tu le disais justement, Stéphane, il est au cœur des besoins d'information qu'ont les États. Hein, et ça a beau être une banalité tout à fait reconnue, absolue, il n'en demeure pas moins que dans les années 1650, il y a peu d'acteurs susceptibles de produire ces savoirs-là et de les mettre en carte, d'où la rencontre avec Blaeu à Amsterdam. Amsterdam, voilà, où il est attendu de manière tout à fait intéressante, hein, parce que peu de gens reviennent de Chine encore à ce moment-là. Et puis, sa propre réflexion sur la chronologie chinoise, qui est peut-être alors nourrie de sa réflexion à lui comme homme de Dieu sur la question du temps.
C'est un très bel exemple d'une autre tension qui habite la fin du livre, puisque d'un côté, évidemment, il y a ces collaborations parfois volontaires, comme des décisions d'édition, parfois involontaires, puisque les des protestants et des catholiques se trouvent dans le même territoire. Et vous donnez un exemple auquel je renvoie le lecteur, d'une grand-mère chinoise de Martigny, et dont le sort est entièrement entre des mains et des transmissions protestantes. Donc un peu une figuration d'une république des cartes ou d'une république des lettres, chère à Stéphane Vanda. Mais de l'autre côté, vous montrez aussi qu'il y a cette dimension toujours présente et qu'on pourrait peut-être dissocier quelquefois que la filiation religieuse d'un certain sentiment de relation avec un pouvoir particulier, puisque cette information, évidemment, elle doit être pour les uns et pas pour les autres. Elle doit donner des instruments dans les compétitions coloniales, maritimes, politiques. Et donc, il y a cette tension. Mais puisqu'il nous faut bientôt quitter la Chine, je voudrais qu'on termine sur une question qui habite beaucoup en ce moment, évidemment, cette nouvelle manière d'écrire non seulement l'histoire des sciences, mais aussi l'histoire tout court, et qui est cette histoire des mises en relation, des découvertes avec ou sans guillemets. Parce que dans votre livre, la question qui se pose, in fine, c'est la question de savoir si l'englobement du monde signifie nécessairement la globalisation des savoirs. Vous suggérez qu'avec les cas des mathématiques, et d'ailleurs Stéphane Vandamme avait dans le premier volume de l'histoire des sciences et des savoirs fait une synthèse sur ce que l'on sait des mathématiciens européens, jésuites envoyés par la compagnie, ou c'est la fin du livre que nous n'avons pas le temps de traiter, jésuites envoyés par le roi de France. Donc, une idée que là, il pourrait y avoir cette hybridation. Et vous mentionniez aussi la présence des savants musulmans. Donc, une hybridation, un métissage des savoirs. Et en même temps, vous avez, dans une des analyses de cette cartographie, une réflexion qui nous éloigne, ou du moins nous donne une autre perspective. Je vous cite Antonella Romano. « Les travaux produits par Martigny, mais aussi par ses prédécesseurs et ses successeurs, n'affectent en rien la production cartographique chinoise, dont la pratique est très antérieure à l'arrivée des Européens. Face à l'hypothèse d'un métissage des cultures savantes, la cartographie chinoise offre un excellent exemple d'imperméabilité, et il faudra attendre le XIXe siècle pour trouver le langage et les codes européens dans ses représentations de l'espace. » Alors, qu'est-ce que je dois conclure ? Hybridation ou imperméabilité ?
Alors, c'est pas moi.
Mais je suis désemparé, là, Stéphane Vandamme.
C'est vrai que c'est un... Comment dirais-je ? C'est une tentative pour complexifier nos repères, donc forcément, et pour un peu nous perdre. Pour mieux nous retrouver, peut-être... À l'issue de ce livre, je trouve que, de ce point de vue-là, le titre en dit long, « Impression de Chine ». Il y a, dans les deux sens du terme, si j'ose dire, « impression », vous y avez insisté, du côté peut-être d'une pratique scientifique plutôt portée par l'observation, le témoignage visuel, donc le contact. Et puis de l'autre côté, impression dans le sens plutôt européen, porté par la presse.
Typographique.
Donc un ordre de l'information imprimé, typographique. Et qui, on mesure bien là l'asymétrie peut-être entre ces deux espaces. Ces réseaux qui sont décrits sont des réseaux fortement hétérogènes. Ils se combinent diversement selon les séquences, selon les chapitres, selon les enjeux du livre. Et ce qui me frappe peut-être, c'est que du début à la fin du livre, c'est le changement en termes presque géopolitiques, c'est-à-dire qui est intéressé par la Chine à la fin de l'ouvrage. C'est davantage les monarchies, on va dire, françaises, et peut-être après les Hollandais, les Britanniques viendront. Et donc c'est d'autres, peut-être une autre globalisation ou un autre englobement du monde qui nous est proposé à la française, très clairement à la fin du XVIIe siècle, enfin en tout cas d'autres tentatives qui sont proposées. Donc c'est vrai que cet englobement, il n'est pas... C'est jamais un processus linéaire, jamais un processus homogène, toujours un processus disputé, plutôt que négocié de manière pacifique ou Là, le conflit a sa place.
Entendez là, quelle serait votre tension? J'aime beaucoup le mot d'imperméabilité, puisqu'évidemment, il réintroduit dans les histoires connectées. Je me souviens qu'une fois, Baxandal avait parlé pour l'histoire de l'art de l'immunité, comme s'il y avait des défenses qui empêchaient une réception, qui est un premier élément. Et un deuxième élément, qui était déjà présent dans le livre de Jacques Proust, c'est que la compréhension des catégories mentales de l'autre, en particulier, donc du coup, des missionnaires par rapport aux Chinois, n'est pas une autre forme involontaire dans ce cas-là, puisqu'il s'agirait de connaître, mais une autre forme de cette immunité.
Alors évidemment, parler dans ce lieu qui a vu le travail de Gernet se développer me rend infiniment prudente. C'est lui qui connaît la Chine et qui en a dit des choses qui me convainquent. Voilà. Maintenant, pour revenir sur la fausse tension histoire globale englobement, il me semble que ce que j'ai essayé de faire de manière extrêmement partielle et sur la base de cette question chinoise dont j'espère que au bout d'une heure de discussion on voit la pertinence, ça a été de réfléchir sur la manière dont l'Europe, dans sa complexité, dans sa diversité, dans sa mobilité, et je remercie beaucoup Stéphane Van Damme pour avoir redit aussi comment entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIe siècle, ce ne sont pas les mêmes acteurs européens qui sont au cœur des dispositifs. Comment cette Europe s'est saisie de l'œcumène, pour le dire d'une manière, de la manière peut-être la plus large qui soit, et comment cette saisie a eu des conséquences tout à fait considérables sur la manière dont se sont recomposées les différentes cartographies des savoirs et à partir de là, comment ceci nous permet à nous, historiens, de réfléchir à cette constante mutation des frontières disciplinaires. Alors, il me semble que, du point de vue de l'histoire des sciences, ça n'est pas quelque chose d'indifférent, puisque il nous faut sans doute abandonner, pour l'époque moderne, l'idée que ces frontières existent, qu'elles sont stables, et qu'elles nous permettent de saisir ce qu'est ce moment-là. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce type de démarche nous invite à réfléchir aux échelles auxquelles réfléchir à l'écriture de l'histoire, et que, me semble-t-il, et c'est la leçon que moi je tirerais de cette expérience d'écriture, enfin de recherche et d'écriture, c'est que l'échelle globale nous donne des perspectives distinctes sur ces processus européens. Est-ce que pour autant ceci relève de globalisation? Je n'en suis pas convaincue. J'aurais plutôt tendance à considérer que c'est a posteriori que l'on peut que l'on relie cette première modernité européenne comme le moment de la mise en place de ce qui advint, je pense qu'on peut aussi laisser à cette première modernité toute sa complexité et en particulier celle d'autres histoires qui seraient écrites d'ailleurs. Car je n'ai vraiment nullement la prétention d'avoir écrit de partout. Merci beaucoup.
Donc, je rappelle que notre conversation était alimentée, nourrie par et richement par le livre d'Antonella Romano, Impressions de Chine, l'Europe et l'englobement du monde, 16e-17e siècle. C'est un livre publié par Fayard. Et finalement, au cours de la discussion, on voit que vous pourriez lui joindre dans une petite bibliothèque ce livre de Jacques Proust, L'Europe au prisme du Japon, un livre qui avait été publié par Albin Michel, dont j'espère qu'il est toujours disponible. Et puis, ça me vient à l'esprit, enfin, avec votre dernière réponse, Antonella, ce livre du grand spécialiste de l'histoire chinoise, Jonathan Spence, La question de Monsieur Hu, qui était un cas d'un Chinois à Paris, et ces bizarreries devaient-elles être attribuées au fait qu'il était un peu fou ou au fait qu'il était chinois ?